en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Comment faut-il comprendre le mot démocratie en Inde, pays qui prétend être la plus grande démocratie du monde ? Quels sont les principaux critères qui permettent de mesurer cette démocratie ? L'essor économique que cet immense pays a connu récemment a-t-il eu une influence sur la démocratie ? Écoutez la communication que Christophe Jaffrelot, directeur de recherche au CNRS, a donnée à l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 18 juin 2012. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, qui présente, en le résumant, le parcours de Christophe Jaffrelot, qui a intitulé sa communication « L'Inde, développement économique et démocratie, quelle relation ?»
Nous quittons aujourd'hui le monde chinois, sur lequel d'ailleurs nous reviendrons dans une séance du mois de juillet et dans quelques séances encore à l'automne, et nous examinons un autre géant parmi les pays émergents, d'une physionomie tout à fait différente. On a coutume en effet d'opposer l'Inde et la Chine. Elles partagent cependant certaines similitudes et complémentarités qui font qu'elles ne s'équilibrent pas forcément l'une l'autre sur l'échiquier mondial. Mais notre orateur, M. Jaffrelot, vous exposera ses idées sur ce sujet. M. Jaffrelot, que je remercie très vivement d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui, est un de nos meilleurs spécialistes de l'Inde contemporaine. Il est directeur de recherche au CNRS. Il a dirigé le Centre d'études des relations internationales de 2000 à 2008. Et il s'est donné une triple formation en sciences politiques, à Sciences Po, bien évidemment, en histoire, à Paris 1 et à l'École des hautes études en sciences sociales, en hindi et en civilisation indienne, à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il est entré au CNRS en 1991. Il a été tout de suite récompensé de la médaille de bronze du CNRS en 1993. Il dirige d'importantes collections d'ouvrages. Il dirige la revue Critique internationale. Il a siégé au pôle Asie de la Direction générale de la coopération internationale et du développement du ministère des Affaires étrangères. Il siège dans les conseils scientifiques de nombreux organismes importants à l'étranger. Il est en relation constante, évidemment, avec l'Inde. Il entretient des liens très étroits avec la recherche américaine et la recherche sur l'Inde au Canada, qui sont des pays extrêmement avancés dans ce domaine. Il est auteur de très nombreuses publications en français et en anglais. Son intérêt principal porte sur, si je puis dire, l'être politique de l'Inde et son évolution, mais dans une vision extrêmement large. Et sa dernière publication porte sur la politique et les religions dans l'Asie du Sud, ce qu'il appelle le sécularisme, c'est-à-dire la présence des religions dans la vie politique et dans la vie de l'État, qui est apparu dans la revue Purusartha, qui est éditée par l'École des hautes études en sciences sociales. Mais il est aussi l'auteur de l'ouvrage « Inde, la démocratie par la caste », histoire d'une mutation sociopolitique 1885-2005, paru chez Fayard en 2005. Un très beau livre en anglais, « India's Silent Revolution », qui retrace la montée des basses castes dans l'Inde du Nord, paru à Columbia University Press en 2003, un ouvrage sur le Pakistan aussi, paru chez Fayard en 2000, La démocratie en Inde, publié en 1999, et un important ouvrage sur les nationalistes hindous qui avait paru aux presses de Sciences Po en 1993, où il a analysé de façon très originale ce qu'est le nationalisme indien. Il a dirigé des travaux de nature différente, par exemple un ouvrage paru à Delhi en 2008 qui compare la consommation des classes moyennes en Inde et en Chine, et également un ouvrage paru aux presses de Sciences Po en 2008 sur les milices armées de l'Asie du Sud. Nous vous remercions d'être venus et nous aurons un très grand intérêt à vous écouter nous parler de l'Inde, développement économique et démocratie. Quelle relation ?
Merci à vous, Madame la Présidente, de m'avoir invité et de me donner ainsi l'occasion de vous soumettre en effet mes réflexions sur un sujet qui me tient à cœur. La liste des ouvrages que vous avez eu la gentillesse de citer montre que cela fait plusieurs années que je travaille sur la question de la démocratie en Inde. Et l'angle que nous avons adopté pour aujourd'hui, la relation entre cette démocratie et le développement économique, eh bien, c'est un angle très heuristique qui permet de non seulement mieux comprendre l'Inde, mais de mieux se comprendre nous-mêmes, je pense, car il est de bon ton dans les sciences humaines et sociales de l'Occident que de considérer qu'il y a une relation presque automatique entre développement économique et démocratie, que l'on regarde du côté d'auteurs marxistes comme Barrington Moore ou du côté de libéraux comme Martin Seymour Lipset. Dès les années 50-60, l'idée suivant laquelle il fallait d'abord passer par quelques développements économiques avant d'atteindre la démocratie était un poncif. Et d'un côté, Moore disait « no bourgeois, no democracy ». Et d'un autre côté, Lipset disait « en dessous d'un certain revenu moyen, un pays ne peut pas être démocratique ». Et l'Inde est évidemment le contre-exemple par excellence, de toute cette théorie. Et c'est ce que je vais essayer de présenter. Alors, dans un premier temps, en essayant de justifier l'usage du mot « démocratie », car le terme est « on ne peut plus galvauder » et il faut vérifier qu'il s'applique à l'Inde. L'Inde prétend être la plus grande démocratie du monde. En quoi, jusqu'où peut-on souscrire à cette prétention ? Et puis, dans un second temps, eh bien, j'essaierai de montrer que si elle s'est démocratisée au plan social, ce n'est pas tant du fait du développement économique que du fait, paradoxalement, de la caste. Alors d'une caste qui s'est transformée, qui s'est métamorphosée, mais de la caste quand même, et non pas de la classe, en tout cas pas de la classe moyenne, qui est sûrement en Inde la moins démocratique des formations sociologiques. Alors d'abord, cette idée de démocratie, la plus grande démocratie du monde. Pourquoi l'Inde peut-elle prétendre à ce titre ? Eh bien d'abord parce qu'aucun pays au monde n'envoie autant d'électeurs aux urnes, élection après élection, pour voter d'une manière libre depuis maintenant 1951. En 2009, l'Inde a voté pour la 15e fois, envoyant 500 millions d'électeurs voter d'ailleurs au moyen de machines électroniques, puisqu'il n'y a plus de ballot paper depuis 2004 en Inde, c'est fini. Tout se passe par machines électroniques, les Electronic Voting Machines, EVMs. Et donc, on voit arriver, c'est d'ailleurs parfois assez cocasse, à Dodan, dans les confins himalayens, des bornes électroniques qui sont sur des piles autonomes. Il n'y a pas forcément le courant électrique dans le village où on arrive, mais il y a de quoi faire un isoloir et on met une urne. On enregistre les votes et puis on ramène l'urne au chef-lieu de district et le jour du dépouillement, on appuie sur un bouton et on a les résultats. C'est effectivement quelque chose d'assez unique qui d'ailleurs va de pair avec un engouement pour l'acte de vote qui est lui aussi assez spectaculaire. Je constatais hier en regardant nos chiffres d'abstention que ça y est, l'Inde vote plus que la France. Puisque nous avons avec un taux de participation de 58% en Inde, plus d'électeurs en Inde qu'en France, en chiffres relatifs. Le pic ayant été atteint en 84, au lendemain de l'assassinat d'Indira Gandhi, avec un chiffre de 64% qui n'a jamais été réédité. Mais 58-59%, c'est maintenant le niveau auquel les taux de participation s'établissent en Inde. Avec d'ailleurs, évidemment, une aporie, c'est que l'on fait voter des gens qui ne savent pas lire et écrire, dans le tas. Il y a bien plus qu'un tiers d'électeurs analphabètes en Inde, et que pour qu'ils puissent savoir pour qui ils votent, eh bien, il faut faire preuve d'astuce. Et ce que l'on a inventé en Inde, c'est un système de symboles électoraux. Chaque parti a un symbole pictural que les électeurs savent reconnaître. Et donc sur leur petit écran tactile où ils vont appuyer sur un bouton dans le huis clos de l'isoloir, ils savent que la main, c'est le parti du Congrès, que la fleur de lotus, c'est le BJP, que la faucille et le marteau, ça vous avez deviné pour qui c'était, etc., etc. Et du coup, on a là pour le coup quelque chose qui est complètement différent de notre démocratie occidentale, un taux de participation qui s'élève plus on descend dans l'échelle sociale. Plus on est pauvre, plus on vote, plus on est illettré, plus on vote, moins on est éduqué, plus on vote en Inde, et nous n'en sommes pas encore là. La corrélation reste au contraire dans nos démocraties occidentales, celle du disenfranchisement. Les moins portés à voter sont encore les populations les moins éduquées. Mais bref, on a là un premier critère de la démocratie, qui ne fait aucun doute, une capacité à mobiliser des citoyens autour du processus électoral. Alors ceci ne nous avancerait pas beaucoup si les électeurs en question n'avaient pas le choix de leur préférence électorale. Et là, c'est évidemment la deuxième qualité de la démocratie indienne, le multipartisme. Un multipartisme alors, qui rappelle fortement notre système de partis ouest-européen, puisqu'il y a un centre, il y a une gauche, il y a une droite, et ces différentes forces politiques se calent sur considérations de politique publique qui nous sont familières. Le centre, c'est bien sûr le parti du Congrès, qui est d'ailleurs plus que le centre, qui est l'épicentre, puisque c'est un parti historique créé en 1885. D'abord, fer de lance du mouvement pour l'indépendance d'une élite anglicisée assez modérée, et puis parti de masse, dès lors que le Mahatma Gandhi en prend la tête en 1920, et c'est le premier grand parti de masse. C'est le premier grand parti anti-colonial, qui d'ailleurs va porter l'Inde à la décolonisation la première. C'est le premier pays en 1947 qui atteint l'indépendance. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ce parti va être imité. Il va être imité par l'ANC en Afrique du Sud. Il va être imité en Indonésie par Sukarno. C'est un parti qui va devenir un parti de gouvernement à partir du moment où Nehru prend la tête du pays en 1947 et la garde jusqu'à sa mort en 1964. C'est un parti qui a à ce moment-là toutes les manettes du pouvoir entre les mains. Nehru sera remplacé par sa fille après un intermède assez court. Et jusqu'en 1977, le Congrès sera au pouvoir sans partage. Il est le centre et l'épicentre du système politique. Il y aura des aléas ensuite. Indira Gandhi perdra le pouvoir. Rajiv Gandhi, son fils, le récupérera. Aujourd'hui, c'est la veuve de Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi, qui est à la tête du parti. Et donc, ce parti, au pouvoir aujourd'hui, depuis 1947, est le parti qui permet de garder le cap, en quelque sorte. Et la famille au sein de ce parti est la famille qui permet que le parti ne s'entre-déchire pas. Dès qu'il n'y a plus un Nehru Gandhi à la tête, toutes les factions sont aux prises les unes avec les autres. Et on l'a vu lorsque Rajiv Gandhi a quitté la scène et que Sonia n'y était pas encore, combien cela peut être dommageable. Donc il est certainement moins fort qu'il ne l'a été, mais ce parti est l'épicentre du système politique. Une gauche ensuite qui est bicéphale, une gauche communiste très ancienne. Le Parti communiste indien est le deuxième parti communiste à avoir été créé hors de Russie soviétique en 1921, et il a des bastions très forts au Kerala, au Bengale, où il a gouverné 34 ans jusqu'à l'an dernier. Au Kerala, c'est là que les communistes ont remporté les élections par la voie des urnes pour la première fois dans le monde. Ils avaient pris le pouvoir par d'autres voies auparavant, mais en 57, pour la première fois, des communistes remportent des élections, et c'est en Inde, au Kerala. Donc là, des bastions communistes très forts. Et puis une gauche socialiste qui est, elle, beaucoup plus paysanne, qui défend les petits tenanciers, les petits paysans, et qui s'entre-déchire, elle aussi, entre de multiples luttes de factions, mais retombe régulièrement sur ses pieds et du coup parvient à reprendre le pouvoir à intervalles réguliers. Elle l'a eu en 89-91 pour la dernière fois. Et puis une droite que nous classerons parfois d'ailleurs à l'extrême droite avec nos catégories à nous, puisque la droite nationaliste hindoue, le BJP, le Bharatiya Janata Party, c'est un parti qui est certes libéral au plan économique, mais assez xénophobe au plan politique, considérant que les minorités musulmanes, 14%, chrétiennes, 2,5%, doivent s'intégrer, s'assimiler, refouler dans la sphère privée les manifestations de leur foi pour reconnaître dans l'hindouisme la culture nationale, puisque les hindous représentent 80% de la population. C'est une droite qui a pris le pouvoir à plusieurs reprises dans les États et au centre dans les années 98-2004. Et là, vous avez, à travers ce que je viens de décrire, déjà un aperçu de ce qui est un autre critère de la démocratie, l'alternance. Une alternance qui est devenue totalement banale en Inde, totalement dédramatisée. Pendant 30 ans, le Congrès a eu le pouvoir sans partage. Et puis, à partir de 77, on a commencé à voir les partis d'opposition prendre des positions de pouvoir. Et depuis 89, de 89 à 2009, aucun parti n'a été reconduit au pouvoir, sauf en 2009, lorsque le Congrès a réussi à être reconduit au pouvoir. Mais on avait une alternance systématique. Elle aura lieu sans doute à nouveau en 2014. Le point important là, c'est qu'on est dans une démocratie bien différente de la plupart des démocraties d'Asie. On a vu récemment la Thaïlande s'entre-déchirer à la faveur d'une élection. Hormis Taïwan et la Corée du Nord, et bien sûr le Japon, il n'y a pas d'autres pays en Asie où le pouvoir change de main comme ça, à la faveur d'une élection. Et aucun Premier ministre et conduit n'a eu la tentation de demander à l'armée de lui conserver le pouvoir. Quand bien même il l'aurait fait, ce Premier ministre, il aurait sans doute été pour ses frais, car l'armée pléthorique, c'est 1 500 000 personnes, est totalement apolitique et n'a jamais eu la moindre velléité de coup d'État. À la différence de pratiquement la situation qui prévaut dans tous les pays environnants. Le Pakistan est évidemment en tête de gondole, entre guillemets, à ce niveau-là, mais on voit l'armée au Bangladesh et puis maintenant au Sri Lanka aussi avoir des tentations politiques très fortes. Non, en Inde, la question ne se pose pas. Le pouvoir est forcément entre les mains des civils. Donc une démocratie électorale qui a pour elle le multipartisme et l'alternance dédramatisée. Puis, pour finir, quand on fait ce tour d'horizon des institutions, une capacité à, d'une manière ou d'une autre, équilibrer les pouvoirs. Il y a des contre-pouvoirs en Inde. Parce qu'on pourrait très bien avoir des premiers ministres qui changent la tête de parti à chaque fois différent, et puis une main de fer, ou en tout cas une poigne de fer, qui s'abattent sur le pays. En l'occurrence, c'est très peu, je dirais, possible en Inde, parce qu'il y a deux contre-pouvoirs majeurs, la justice. Et l'indépendance de la justice en Inde, l'indépendance de la Cour suprême, est d'autant plus nécessaire que la corruption est grande et qu'elle peut, elle, cette justice, lutter contre cette corruption. La Cour suprême des États-Unis est nommée, certes après validation par le Congrès, par le président, et cela heurte notre désir de séparation des pouvoirs. Elle est nommée en Inde par les juges des rangs inférieurs, des cours des États, de l'Union fédérale, de l'Union des États indiens. Donc c'est une cooptation qui fait que les juges sont, en un sens, nommés par d'autres juges, et puis qu'ils le sont ensuite pour achever leur carrière à ce poste. On ne peut pas se débarrasser d'un juge gênant, sauf à mettre en place une procédure d'impeachment à l'américaine impliquant que 3/5 du Parlement votent ensemble. Ça ne s'est jamais vu et ça se verra sans doute jamais. Donc les juges ont un grand pouvoir, une grande indépendance, ils ont un grand prestige aussi. C'est sûrement l'institution avec l'armée qui a la meilleure image dans l'opinion indienne. Ce sont des juges qui sont encore peu corrompus, même pour ce qui est des juges à la Cour suprême, pratiquement aucun n'est tombé dans ce travers. Et puis, ils ont un sens très gandhien d'un mode de vie spartiate qui tranche maintenant fortement avec l'ostentation des riches, des nouveaux riches. Et donc, ils ont un prestige considérable qui rend leurs arrêtés absolument indiscutables. C'est toujours très surprenant de voir que lorsque un arrêt de la Cour suprême tombe, eh bien, on peut avoir été dans la rue par centaines de milliers la veille. Du moment que la Cour donne sa décision, chacun rentre chez soi, est-ce qu'il va avoir force de droit? Alors, cette justice, elle s'adosse aussi à une presse qui est un autre contre-pouvoir. La presse en Inde est florissante. Elle enregistre des taux de tirage qui augmentent de 10% par an depuis maintenant 15 ans, au point que j'ai cessé de calculer tout cela parce que ça devenait compliqué. Mais un seul chiffre qui date maintenant de quelques années, 93. En 93, on avait 30 214 titres officiellement enregistrés, répertoriés. avec un tirage de 68 millions d'exemplaires. Vous avez en Inde une dizaine de journaux qui tirent à plus d'un million d'exemplaires. Le Times of India, c'est 2 500 000 exemplaires. Dainik Bhaskar, c'est le plus grand journal du monde maintenant, il est de langue hindi. Cette presse, elle est vigoureuse, elle est lue en public dans les villages parce que tout le monde ne sait pas lire, donc il faut pouvoir partager les nouvelles ensemble. Et puis, elle est toujours prompte à égratigner les gouvernants, elle n'épargne personne. Il n'y a pas de voix de son maître, et elle aurait du mal d'ailleurs à suivre ce genre de logique, puisque le maître change tous les 5 ans en moyenne, et que dans ces conditions, ce serait très risqué de ne pas vouloir égratigner un gouvernant indélicat. La presse bénéficie de toutes les fuites que la justice ménage à son endroit pour mettre en difficulté les hommes politiques les plus corrompus. J'ai beaucoup prononcé le mot de corruption, c'est un des fléaux de l'Inde. Et on a en ce moment un très bel exemple, si j'ose dire, de la chose. Le ministre des Télécoms est passé de son bureau à la prison pour avoir soustrait 38 milliards de dollars à l'État indien en sous-facturant des licences de téléphonie mobile. Voilà une affaire parmi bien d'autres qui montre l'ampleur du phénomène. Alors, c'est bien là qu'on voit les limites de la démocratie, et j'arrête cette liste, cette checklist en quelque sorte, sur ce point. On a de belles institutions. On a des institutions qui sont robustes et qui montrent une démocratie vivante. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir les institutions, il faut aussi avoir les pratiques qui vont dans ces cadres fonctionner vraiment. Et on a, outre cette limite, qui est la corruption, une autre limite qui est, elle, sociologique, qui est la caste. La sociologie de l'Inde est dominée par une institution tout sauf démocratique, la caste. Et du coup, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure démocratie et caste ont pu être compatibles, et dans quelle mesure c'est paradoxalement de la caste que la démocratie tire sa vigueur, et non pas du développement économique dont on pensait qu'il serait le ressort de la démocratisation. Alors pour aborder la caste, il faut la définir d'un mot, en fait de 3 mots, puisqu'il y a 3 critères en fait, on peut dire comme ça, les choses comme ça. Il y a 3 critères qui fondent la caste. Le pur et l'impur, c'est le premier. C'est un système social qui est fondé sur une croyance, pour nous tout à fait immatérielle, dans le pur et l'impur. Le brahman est pur, il est au sommet de la hiérarchie, il naît ainsi. Génération après génération, et l'intouchable, au bas de l'échelle, lui est impur. Et son nom, intouchable, désigne cette impureté congénitale. Il ne peut pas entrer dans une relation de proximité avec des castes supérieures, car il les souillerait, et du coup, elle serait obligée à des rituels de purification interminables impliquant de l'eau du Gange, entre autres. Et du coup, on voit bien ce que ça induit en termes de stigmates et de répartition même topographique dans un village. Il y a un quartier pour l'intouchable à l'écart. Et ils ont leur puits, parce qu'il n'est pas question qu'ils viennent puiser l'eau qui est dans le cœur du village. Donc, le pur, l'impur, ça, c'est une force structurante, c'est un principe structurant. Il va de pair avec un 2e critère que l'on peut désigner sous un label générique de spécialisation professionnelle. Chaque caste va exercer une activité qui va être en accord avec son degré de pureté rituelle. Le brahman, bien sûr, va travailler avec son cerveau, c'est le brain power, ce sont les lettrés, les literati, depuis toujours. Ce sont ceux qui connaissent les textes, qui sont les prêtres, et puis qui sont ceux qui gèrent l'État. Et ça, c'est très important dans tous les royaumes, depuis la nuit des temps, ce sont les brahmanes qui gèrent. Viennent ensuite les guerriers, les kshatriyas, qui sont en fait ceux qui défendent la société et les armes à la main, mais qui ont aussi été les conquérants, la meilleure défense étant souvent l'attaque. Et du coup, ce sont eux qui ont donné les grandes lignées de propriétaires fonciers. Tous les maharajas, tous les princes sont des kshatriyas. Et aujourd'hui, pratiquement, la terre est entre les mains d'une bonne partie de cette élite, on peut dire d'épée, tandis que celle du haut et du dessus est de robe. Et puis, dernier groupe, qui n'est pas sans importance, même s'il est démographiquement assez minime, les gens qui travaillent avec l'argent, la caste des usuriers, des marchands, et puis maintenant des capitalistes. Monsieur Lakshmi Narayan Mittal vient de cette caste, bien sûr, ils en viennent tous. Regardez le CAC 40 à l'indienne de Bombay, ils sont pratiquement à 80% issus de cette petite caste. Le soldat sang est en fait d'ailleurs pour l'essentiel des Parsis. Les Parsis, c'est ce petit groupe de Zoroastriens qui a quitté l'Iran quand l'islam y est arrivé et qui s'est replié sur Bombay et sur le Gujarat. Donc on a une troisième caste qui est faite essentiellement de milieu financier, du milieu économique. Ça fait trois élites. La quatrième catégorie, elle, étant la plus nombreuse, celle qui travaille la terre. Celle qui travaille la terre et qui est aussi chargée de l'élevage. C'est une société pastorale, agro-pastorale, bien sûr, l'Inde. Et ce sont les gros régiments qui sont là, suivis pour finir, bien sûr, des intouchables, qui eux font tout ce que les autres ne veulent pas faire. Et les tâches des intouchables sont paradoxalement consacrées à des matériaux qui parfois pour nous sont nobles. Le cuir, par exemple. Le cuir est au contraire en Inde un matériau particulièrement impur parce que c'est la peau de la vache, l'animal sacré de l'hindouisme par excellence. Donc la grande caste des intouchables en Inde aujourd'hui, c'est la caste des cordonniers. Mais elle vient tout en bas, elle vient vraiment tout en bas. Troisième et dernier critère, mais ça va très vite là, l'endogamie. On se marie dans sa caste. Car comment perpétuer le système s'il y a le mélange des castes? Et tous les textes de l'hindouisme le disent haut et fort. Ne mélangez pas les castes. Tous ces textes ont été écrits par des brahmanes, bien sûr. Et l'idée qu'on puisse perturber cet ordre est une idée folle, en tout cas affolante. Et il y aura donc un souci de la perpétuation de la lignée, l'endogamie, le mariage dans la caste, qui donne d'ailleurs son nom à la caste. Une caste en hindi, ça ne se dit pas caste. Caste, c'est les Portugais qui l'ont introduit comme mot. C'est jati. Et jati, c'est un de jana, naître. On se reproduit dans sa caste. Il y a une zoologie derrière. Du coup, le mariage est arrangé, aujourd'hui encore, même si les Indiens vous diront que la caste c'est fini, bien sûr, qu'on a passé l'âge de la caste et que le chapitre est refermé. Ouvrez un journal le dimanche à la page annonce matrimoniale et vous verrez que le mariage est arrangé par caste. Et c'est comme ça que se perpétue ce système, aujourd'hui encore, y compris parmi d'ailleurs les élites les plus occidentalisées, parce qu'elles ne sont pas les dernières à se marier dans leur caste, même si c'est là qu'on a un peu plus de souplesse et un peu plus de cosmopolitisme. Alors ce système social, vous vous imaginez bien qu'il est tout sauf démocratique et que la hiérarchie de la caste a en fait favorisé la hiérarchie politique, une verticale du pouvoir, qui a très longtemps été antidémocratique, a donné à la démocratie indienne un caractère formel en vérité. Le Congrès a été le premier à se couler dans ce moule. Brahman, Kshatriya, guerriers et marchands ont formé une sorte de coalition des élites et ont utilisé leur pouvoir sur les paysans notamment pour faire voter, comme il le fallait, leurs tenanciers. Tenanciers qui étaient dans la dépendance totale de leur maître, notamment au plan financier, car toutes ces catégories sociales dominées sont très endettées. On a toujours une dette sur le dos en Inde. Il faut s'endetter pour acheter la semence, il faut s'endetter pour marier sa fille, la dot étant un fléau aussi très considérable. Et donc pendant très longtemps, on n'a pas eu de démocratie digne de ce nom parce qu'on avait une sorte de clientélisme en fait, en guise de démocratie, et les élites parvenaient à faire voter pour elles leurs dépendants. Et puis la caste s'est transformée, et c'est en se transformant que la caste a aidé la démocratie, beaucoup plus que la classe, je finirai par là. La caste s'est transformée, évidemment de façon très progressive. Mais à partir du moment où les Britanniques, qui ont colonisé l'Inde dès la fin du XVIIIe siècle, ont pris la mesure du défi humain qui leur a été lancé, pour les missionnaires britanniques en particulier, le statut des intouchables était tout simplement insupportable. Voir des hommes traités comme des animaux, au sens propre du terme. Dans les Dharmashastra, le crime d'une vache est davantage puni que le crime d'un intouchable. C'était à ce point insupportable que les missionnaires chrétiens ont très vite décidé qu'il fallait de l'éducation, qu'il fallait donner de l'éducation à ces groupes. C'est à ce moment-là qu'on a inventé la discrimination positive, car il s'agissait de faire éduquer ces gens. Ils ont été éduqués et, aux surprises, un intouchable éduqué était aussi intelligent qu'un brahmane, ce qui n'était pas prévu par le système. Et ce qui a donné des idées ensuite aux leaders indiens eux-mêmes, de sorte qu'après l'indépendance, quand Nehru a pris le pouvoir, il a considéré que cette politique avait besoin d'être systématisée. Et donc on a abandonné la caste, sauf pour les intouchables, qu'on a continué à recenser. Aujourd'hui, c'est le paradoxe de toute politique de discrimination positive. Vous voulez anéantir, abolir un stigmate. Eh bien, pour vous en débarrasser, il faut voir dans quelle mesure il continue à peser sur la société. Donc on recense les intouchables, ils sont 15%. Eh bien, il y a 15% des places à l'université, 15% des places dans la fonction publique, 15% des places dans les assemblées élues, assemblée nationale, assemblée régionale, réservées aux intouchables. Ça a été évidemment le point de départ d'une transformation radicale de la société indienne, car ça a fait en sorte que eh bien, des populations dominées ont du coup pris conscience de leurs intérêts, de leurs droits, ont formé des partis politiques. Le parti politique le plus spectaculaire de ce point de vue a été au pouvoir entre 2007 et cette année, dans le plus grand état de l'Inde, l'Uttar Pradesh, 200 millions d'habitants. L'Inde fait maintenant 1 milliard 200 millions d'habitants et c'est le plus grand des états en question. Et du coup, les castes qui étaient juste au-dessus, les castes de paysans, se sont elles aussi mobilisées et c'était elles qui comptaient le plus parce qu'elles forment la majorité de la société. Et elles ont considéré que si elles n'avaient pas elles aussi un accès à l'éducation qui leur soit réservé, elles n'auraient jamais l'éducation qui permet de s'émanciper. Et du coup, elles ont formé également des partis politiques. C'est en cela que la démocratie a été un vecteur de démocratisation. La démocratie politique a été un vecteur de démocratisation sociale. On a vu les basses castes s'articuler autour de partis politiques, de partis de caste, littéralement, et obtenir peu à peu les mêmes privilèges, les mêmes avantages en 90. À la faveur d'une alternance qui a porté les socialistes au pouvoir, 27% des places dans la fonction publique nationale ont été réservées aux basses castes. Il y avait déjà 15% pour les intouchables et 7% pour les aborigènes. C'est de ce moment qu'on peut dater la démocratisation de la démocratie indienne, au sens où c'est de ce moment que la base sociale du régime s'est étoffée, qu'on a vu les pauvres voter plus que les riches, et qu'on a vu, surtout, l'élite politique se renouveler complètement. Cela faisait des décennies, voire des siècles, que les mêmes trois petits groupes que j'ai cités pour commencer gouvernaient sans partage. Les chiffres que j'ai pu compiler montrent qu'en 1951, les quelques 13% que forment brahmanes, guerriers et marchands avaient à leur actif 65% des sièges, tandis que les 52% que sont les paysans et les éleveurs avaient 5% des sièges. C'est ça qui est aujourd'hui derrière nous. Aujourd'hui, les basses castes, les paysans, ont pris le pouvoir dans tous les États. Sur les 29 États que compte l'Inde, il n'y en a plus que 3 qui soient dirigés par des brahmanes, 3 femmes d'ailleurs, paradoxalement. Tout le reste est entre les mains de membres de basses castes. Et la prochaine étape sera probablement le passage du pouvoir au centre, entre les mains, si ce n'est d'un rejeton de la famille Nehru-Gandhi, alors probablement d'un leader de basse caste. C'est la caste qui s'est transformée en groupe d'intérêt, qui du coup s'est émancipée de la hiérarchie verticale. La caste est en quelque sorte le vecteur d'agrégation des intérêts individuels, et du coup elle peut faire nombre dans l'arène électorale. Tout ça s'est passé sans que le développement économique n'impacte à aucun moment positivement la démocratisation de l'Inde. Parce que si on regarde quel a été, et ce sera le mot de la fin pour moi, l'impact du développement économique de l'Inde, il aura été au contraire antidémocratique. Quand vous regardez ce taux de croissance que l'Inde a enregistré année après année dans la décennie dernière, en moyenne 7% par an, hein, c'est le deuxième taux de croissance le plus élevé après la Chine sur 10 ans. Mais faire 7% tous les ans pendant 10 ans, c'est totalement différent. Ça a été une véritable transformation. Ça fait maintenant 28 ans que je vais en Inde plusieurs fois par an et on n'avait jamais vu l'Inde bouger, se transformer à cette vitesse-là. Tous les 3 mois, on voit un immeuble de neuf sur la route de l'aéroport. Bon, cette transformation économique-là, qui est majeure, au plan politique, elle aura eu des effets plutôt nocifs. Car la classe moyenne qui en est née, une classe moyenne qui aujourd'hui fait en gros 10% de la société. C'est une classe moyenne très portée à la consommation, très consumériste, très portée à l'enrichissement personnel et très peu portée à l'implication dans la sphère publique. Un refus de l'acte de vote en est la marque la plus distinctive. Les taux de participation dans les zones résidentielles du sud de Delhi, par exemple, où sont toutes les grandes villas maintenant hérissées de miradors, eh bien c'est du 26-27%. On est à la moitié de la moyenne nationale. Car la classe moyenne considère qu'elle a perdu la partie dès lors qu'un homme vaut une voix. Elle n'aura pas voix au chapitre et elle a mieux à faire que de passer un dimanche à voter. Donc on est sur une logique beaucoup plus consumériste, beaucoup plus hiérarchique pour le coup, qui va sans doute à terme poser un gros problème, et je termine par ce point d'interrogation, jusqu'où la démocratisation de la démocratie indienne peut-elle laisser le secteur privé de côté ? Car finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la classe moyenne prospère dans le cadre d'un secteur privé qui est à l'abri de la logique démocratique, qui est à l'abri de la logique politique, qui fonctionne autour de grandes entreprises privées pour l'essentiel. Eh bien, ceux qui ont pris le pouvoir, qui sont maintenant en passe, en tout cas, de gouverner le pays au centre, vont frapper à la porte du secteur privé et dire « Nous avons certainement le pouvoir dans l'administration, dans l'État, mais nous savons très bien où est le vrai pouvoir et en tout cas où est la vraie richesse. » Et donc, il y aura là certainement, ce sera probablement le scrutin de 2014 qui en servira de cadre, un conflit d'intérêts que l'Inde aura à résoudre. On peut lui faire confiance, je lui fais confiance, pour trouver la parade et aménager des solutions, un quota dans l'entreprise, pourquoi pas. Elle a fait des quotas à tous les étages, elle peut ajouter un étage. Faire un investissement dans l'enseignement professionnel, qui est le parent pauvre du système éducatif indien, pour permettre à ceux qui sont à la porte de l'entreprise, faute de formation, d'y entrer par le bas de la pyramide. Troisième possibilité, dont on parle beaucoup et qui serait bien meilleure que des quotas, ce que les Américains ont fait en termes d'affirmative action, c'est d'avoir réservé une partie des achats de l'État à des entreprises dirigées par des gens de basse caste. C'était la façon qu'avaient trouvé les Américains d'aider les Noirs à s'émanciper. C'est beaucoup plus simple que des quotas, parce que ça n'oblige pas une entreprise à recruter des gens qui viennent d'une certaine catégorie, et ça permet néanmoins de mettre on board, hisser à bord des groupes encore défavorisés. Il va falloir faire preuve d'imagination, mais on peut espérer que pour finir, le développement économique et la démocratie aillent de pair en Inde. Je vous remercie.
Pour lire l'intégralité du texte de cette communication, consultez le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Toutes les communications de la série proposée par le président de l'année pour 2012, Marianne Bassit-Bruguière, sous le titre général « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont rediffusées par Canal Académie.